Bonjour, c'est Franck Ferrand. Vous aimez forcément les histoires, vous vous apprêtez à en écouter une. Eh bien, je voudrais vous parler d'un programme passionnant, La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers avec le soutien de Van Cleef & Arpels, la référence en la matière. On y évoque des bijoux de sentiment, de pouvoir, des joyaux mythiques, fascinants, romantiques, leurs secrets, leurs légendes. Découvrez l'histoire du grand diamant bleu de Louis XIV et celle des grilles de mariage de Rihanna. Pour sa 4e saison, La Voix des Bijoux s'intéresse aux liens tissés entre bijoux et bande dessinée. La Voix des Bijoux, le podcast de l'École des Arts Joailliers, est disponible en français et en anglais sur toutes les plateformes.
Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Comme le dit d'entrée de jeu Jérémy Bigori qui a préparé cette émission, Franck n'a jamais vraiment trouvé sa place dans l'histoire de la musique. C'est un musicien sur lequel ont plané des légendes, un compositeur qui a été annexé par les uns, et les uns en question ce sont ses élèves, qui a été vilipendé par les autres, et surtout largement ignoré d'un public qui à l'époque n'avait d'oreilles, n'avait d'yeu que pour l'opéra de Paris. Ce qui fait qu'il y a pas mal de fausses idées sur ce personnage, des jugements un peu à l'emporte-pièce et des partis pris. On s'est mépris, parfois avec mauvaise intention d'ailleurs, sur son caractère un peu doux, mais complexe et tourmenté, sur sa foi apparemment naïve, qui en vérité était évangélique, de la façon la plus noble qui soit. Certains ont voulu faire de lui un marguillier en conflit et totalement une sorte de grenouille de bénitier, allant jusqu'à lui donner le surnom de Pater Seraphicus. Son physique n'arrange rien à l'affaire, hein. Imaginez un visage austère, avec ses épais favoris comme on pouvait les porter à l'époque. Bref, on a l'impression qu'il n'a jamais été jeune, cet homme-là. Il a l'aspect d'un clerc de notaire ou d'un petit fonctionnaire de la province de l'époque, vêtu toujours en noir, flanqué d'un parapluie sous le bras. Bref, ce n'est pas Liszt ou c'est pas Wagner. Hein. C'est pas le grand musicien tel qu'on l'imagine. En vérité, cet homme secret, tourmenté et même sensuel, cet homme se révèle dans sa musique. La vie de Franck ne comporte pas, c'est vrai, de grands drames. On serait bien en peine de trouver des hauts faits là-dedans, des amours échevelés. Ça, évidemment, c'est pour Beethoven, c'est pour les stars de la musique. Mais lui n'était pas fou comme Schumann, il n'était pas mort très jeune, fauché en pleine gloire comme Chopin ou Mendelssohn. Il n'était pas protégé des dieux comme Liszt ou protégé des rois comme Wagner. Bref, il a mené une existence besogneuse et, disons-le, sans beaucoup d'éclat.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est à Liège, bien sûr, qu'est né César Franck le 10 décembre 1822. Au petit matin, il a reçu des prénoms qui plus tard feront gloser. César, Auguste, Jean, Guillaume, Hubert, rien que ça. Pourtant, le milieu est simple, mieux que modeste quand même, avec trois origines, allemande, wallonne et hollandaise. Le père, en août 1820, avait épousé une jeune fille d'Aix-la-Chapelle. Ils vont donc avoir deux enfants, César, puis Joseph, qui naît en 1825 et qui sera lui aussi organiste. Autant la mère est douce, pieuse, autant le père est un personnage un peu particulier, vaniteux, égoïste, assez tyrannique, avare aussi, un peu le père Grandet, si vous voulez. Il va jusqu'à marquer le pain pour vérifier si des tartines supplémentaires auraient pu être données aux enfants pendant qu'il avait le dos tourné, vous voyez un peu le genre. Il noircit des pages et des pages de carnet pour savoir si le café ne serait pas plus économique que le chocolat au petit déjeuner. On voit bien cette atmosphère de la bourgeoisie du début du 19e siècle. Nicolas Joseph, c'est son prénom, souffre de sa condition médiocre. Il est commis aux écritures à la banque Frézard. On se croirait vraiment dans un roman de Balzac. Ensuite, il va devenir commis chez un agent de change. Il va tout faire pour pour réaliser à travers ses fils ce que lui-même n'a pas pu accomplir. Ils sont en quelque sorte son faire-valoir, ces enfants-là. Ils sont sa justification. Bref, c'est le transfert classique. Et d'autorité, il va imposer le piano à l'aîné, le violon au cadet. Il les oblige tous deux, sans ménagement, du reste, à des heures et des heures de travail sur leur musique. César bientôt va entrer au conservatoire de Liège à 9 ans. Il connaît déjà l'existence de labeur que, par la suite, il ne cessera du reste de mener. Les progrès sont rapides, grâce à une mémoire étonnante, une oreille très sûre. Il faut vous dire qu'il a la chance d'avoir de longs doigts effilés qui lui permettent de plaquer sans difficulté les plus larges accords. En 1834, son diable de père parvient à le faire jouer devant le roi Léopold Ier. On ne sait pas comment il s'y est pris, mais enfin il y est arrivé. Et ça, c'est une première étape. Son père espère pour son fils la renommée que connaissent les grands virtuoses de l'époque, les Liszt justement, et Paganini. Nini et Hummel, etc. Bientôt Chopin. Nicolas Joseph va quitter la Wallonie qui paraît trop étroite pour les grandes ambitions qu'il nourrit et au début de 1835, le voilà qui débarque à Paris avec son fils en espérant bien que la gloire de l'un rejaillira sur l'autre. Hélas, le conservatoire à l'époque n'ouvre pas ses portes aux étrangers. Liszt en a déjà fait les frais face à son directeur de l'époque, l'inflexible Cherubini. Il lui faudra donc demander la naturalisation française. Et en attendant, eh bien, on va confier César à deux professeurs, excellents profs du reste, chargés de cours au conservatoire d'ailleurs, Pierre Zimmermann et Antoine Reichat, qui d'emblée juge l'enfant promis à un bel avenir. Alors on travaille pour obtenir les fameux papiers, ça y est, César est naturalisé, on peut donc l'inscrire au conservatoire, on est là en 1837. L'un de ses professeurs va être Hippolyte Raymond Collet, le mari de Louise Collet, vous savez, cette poétesse amie de Flaubert, sa grande correspondante. Eh bien, Hippolyte Raymond Collet va enseigner à Franck qui travaille de façon acharnée. C'est un garçon consciencieux, César, consciencieux jusqu'à la minutie. Chaque année, il aura les prix d'excellence, ça lui apporte une certaine réputation qui lui ouvre de nouveaux horizons, qui lui ouvre aussi la porte de certains salons, il va donner des concerts. Dès cette époque, le père se fait l'impresario agissant de son fils, il va le forcer à composer œuvre sur œuvre afin de pouvoir se produire en public. Et on va voir ainsi naître des fantaisies, des sonates, des variations sur des airs d'opéra, même deux concertos pour piano. L'histoire de César Franck, c'est celle des décisions que prend son père, vous l'avez bien compris, en tout cas entre 1837 et 1844. Son père le pousse dans tous les salons de facteurs de piano, je pense à Pape, à Erard, etc., où l'on peut entendre de la musique. C'est là que César Franck va créer son trio de salons, opus 1, dans des cercles privés. On l'oblige à donner des leçons particulières aussi de piano, harmonie, contrepoint et fugue. Et les leçons en question, il les donne à son nouveau domicile du 43 de la rue Lafitte. Le père, en plus de tout ça, livre aux rédactions de revues de nombreuses annonces et comptes rendus. Il organise des tournées en Belgique, en Allemagne. Cet homme est insatiable, voyez, on se demande d'où vient. Il y avait une frustration en lui qui ne demande qu'à s'épancher, tout simplement. Il va même jusqu'à retirer subitement ses enfants du conservatoire parce qu'à ses yeux, ils sont en train de perdre leur temps, ce qui fait que César ne pourra pas concourir pour le prix de Rome. Ce qui, pour lui, 30 ans plus tard, aura de fâcheuses conséquences. Ce sera la raison de son retard, le retard de sa nomination au poste de professeur au Conservatoire de Paris. Un fils complètement sous la tutelle de son père, mais qui compose, mais qui commence à se forger la personnalité d'un grand musicien. Thank you. Gérard Poulet au violon et Hendon van Dunn au piano interprétaient le premier mouvement de cette sonate pour violon et piano de César Franck.
Vous écoutez Radio Classique.
Donc ce garçon est complètement soumis aux volontés de son père, en tout cas jusqu'en 1846, parce que d'un seul coup, ce garçon un petit peu balourd, il faut l'imaginer avec déjà les favoris qui lui dévorent le visage, il a 22 ans en 46 et d'un seul coup, il se rebelle. L'orage ne sera que plus violent d'ailleurs, parce que comme il a beaucoup attendu, tout ça s'est accumulé. Franck, depuis des mois, donne des leçons dans un pensionnat de la rue des Martyrs. Et parmi les élèves, il y en a une que le jeune professeur préfère. Elle s'appelle Eugénie Félicité Jaillot des Monceaux. Elle est la fille d'acteur de la Comédie Française. Bon, ben le reste, vous l'imaginez. Un amour naissant qui inspire une tendre mélodie. On est en 46, c'est l'ange et l'enfant de César Franck. Et puis, bien, la force, grâce à cet amour, de s'opposer à son père avec lequel il va se disputer violemment. Il faut dire que le père a déchiré la partition, cette fois c'en est trop. César claque la porte, il va réécrire de la page qu'il avait composée, la L'ange et l'enfant, il va réécrire ça de mémoire et quitter le logis de son père pour s'installer tout près de chez les Desmousseaux, donc rue Blanche. Et c'est la rupture avec le père. Pour obtenir celle qu'il aime, il va quand même devoir arracher le consentement de son père au terme de 3 sommations. On pense à Robert Schumann et à Clara qui ont dû user du même procédé, c'était la loi de l'époque. Le contrat est signé le 8 février 1848 et dès le 22 février, César Franck épouse donc Félicité à Notre-Dame-de-Lorette, hein, qui est leur quartier là, au pied de la Nouvelle-Athènes. Pour parvenir à l'église, le couple a dû enjamber les barricades. Je vous ai dit qu'on est en février 1848, on est en pleine révolution, celle qui est en train de chasser Louis-Philippe du trône, et les républicains crient partout « À bas Guizot !» Le soir, tôt à cause du couvre-feu, ils vont aller couver leur amour dans leur petit logement du 69 de la rue Blanche. Et dans la vie de César Franck, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre bien sûr, qui en vérité sera le chapitre des années obscures. Pendant 20 ans, le musicien va mener une vie de petit bourgeois où les accidents de la vie quotidienne prennent les proportions d'événements importants. Oh, on manque une leçon, oh là là, il y a un cours à préparer qui n'a pas été assez préparé, il y a les travaux de la maison, on court le cachet à travers tout Paris, bien entendu, on donne 5 ou 6 concerts par an en qualité de pianiste accompagnateur à Orléans pour aider un peu, pour mettre du beurre dans les épinards. Ça rapporte 100 francs, ce genre de concert. Bref, on n'est pas très loin de la misère quand même, dans cette existence étouffée, partagée entre un travail incessant et une famille de plus en plus prenante. 4 enfants vont naître entre 48 et 53, dont 2 mourront en bas âge. La vie de César Franck est assez morne à cette époque. Faut pas s'étonner que les biographes se soient peu intéressés à son cas. Pas beaucoup d'œuvres, aucune en tout cas qui mérite vraiment de perdurer, à tel point que le nom de César Franck va tomber dans l'oubli, alors que celui de son frère, Joseph Franck, qui est organiste à Saint-Thomas d'Aquin, et qui est déjà un bon compositeur, est en train de grandir, lui en revanche. Au milieu de cette grisaille, le sort va néanmoins décider d'aider César Franck. En 1853, son ami l'abbé d'Ancel lui offre de tenir l'orgue dans sa paroisse de Saint-Jean et Saint-François du Marais. L'instrument est un instrument moderne, un des premiers que signe le plus célèbre des facteurs d'orgue de ce temps, Aristide Cavaillé-Coll. En 1858, nouveau poste qui se libère cette fois à Sainte-Clotilde, sur l'autre rive, en plein cœur du quartier Saint-Germain. Alors là, on monte d'un cran, pour pas dire de deux. Et là aussi, il y a un magnifique orgue Cavaillé-Coll. Franck, désormais, va tenir cet instrument exceptionnel qui permet des combinaisons de timbres d'une variété infinie, et il le tiendra jusqu'à sa vie. C'est là qu'il va s'accomplir comme créateur, comme artiste. C'est là qu'il se fera en quelque sorte le truchement des hommes auprès de Dieu. Il faut l'imaginer, César Franck, juché là-haut à sa console, entre ciel et terre, se faisant intercesseur d'une certaine manière. C'est aux commandes de cet instrument que le 10 décembre 1864, il va créer son célèbre recueil de 6 pièces d'orgue qui sonne le réveil de la littérature organistique. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire de l'orgue grâce à César Franck. Et c'est là que chaque dimanche, il laissera glisser ses doigts dans des improvisations suspendues qu'on vient écouter exprès, même si elles se sont évanouies. Hein. Nous n'en saurons jamais rien, nous, de tout cela. André Marchal, dans l'orgue, cahier et mémoire, nous dit « Il se servait de l'orgue un peu comme d'un orchestre. Il faut dire que l'orgue de Sainte-Clotilde s'y prêtait. Il était d'une délicatesse, d'une personnalité extraordinaire. À mon avis, c'était un spécimen unique de Cavaillé-Coll. Jamais aucun orgue n'a possédé cette légèreté et cette personnalité. » Ce n'est pas l'orgue de Sainte-Clotilde que vous entendiez ici, mais c'est celui de l'église Saint-Étienne de Caen, ça n'en est pas moins, un Cavaillé-Coll, où Marie-Claire Alain nous donnait le prélude de Fugue et Variation des pièces pour grand orgue de César Franck.
Franck Ferrand, sur Radio Classique.
Et voilà que renaît la renommée de César, qui lui ouvre des concerts, on lui demande d'inaugurer de nouvelles grandes orgues, récitals à Saint-Étienne-du-Mont, à Saint-Sulpice, à Saint-Denis. Sa vie, à ce moment-là, va connaître un tournant qu'accentue encore sa nomination comme professeur d'orgue au conservatoire en 1872. Ça, c'est une décision qui va enfin changer sa vie, parce que ça lui assure un salaire décent, tout simplement. Sa situation matérielle est assurée. Il faut vous dire que pendant la guerre franco-prussienne de 1870, César a perdu la plupart de ses élèves, une bonne partie de ses émoluments à Sainte-Clotilde. Il peut se consacrer d'autant plus à la composition. C'est la période de ses chefs-d'œuvre, là. Le plus grand Franck apparaît. Si son oratorio, Les Béatitudes, va l'occuper 10 ans de 68 à 78, à partir de là, il va arracher à chacune de ses vacances d'été une composition magistrale, comme taillée dans le marbre. Il y a une vraie fièvre créatrice chez cet homme, comme s'il voulait un peu rattraper le temps perdu. Et son aura est très grande auprès de ses élèves. Je pense à Vincent Dandy, Henri Duparc, Ernest Chausson, et on pourrait citer comme ça pas mal de noms connus. Ils vont former ce qu'on appelle la bande à Franck ou la franc-maçonnerie. Ça, ce sont les malveillants qui disent ça, qui voudraient à tout prix penser qu'il y avait là un petit groupe qui n'aurait pas été objectif. Au lendemain de la guerre de 70, la création de la Société Nationale de Musique à laquelle Franck participe va développer la possibilité pour lui de donner des concerts en public. Cette SNM, comme on l'appelle, fondée par des franquistes, fera entendre des partitions de toutes sortes de musiciens, Chabrier, Dindy, justement, Ravel, Debussy, Schmitt, Fauré, que sais-je. Ce sont vraiment là, on peut dire que c'est un âge d'or pour cette musique française, hein, entre 1870 et 1914. C'est une esthétique nouvelle qui naît dans la lignée même de César Franck. C'est donc là que seront créés la plupart des chefs-d'œuvre que César Franck lui-même va livrer. Le Chasseur maudit en 82. Donc, ce que vous venez d'entendre là, Prélude, Chorale et Fugue en 84, Les Djinns en 85, Les Variations symphoniques en 86, Psyché en 87, La Sonate pour violon et piano en 88, celle que Proust immortalisera, si je puis dire, en faisant la Sonate de Vinteuil, la Symphonie de 89, le Quatuor à cordes en 90, etc. Malgré ses 68 ans, César Franck déborde de projets. En 1890, il compose pendant l'été à Nemours un nouveau recueil d'une grande qualité, les trois chorales pour orgue, qu'il charge de toute cette foi profonde qui l'anime et qui l'élève à la hauteur d'un véritable testament musical. Il allait bien jusqu'ici du point de vue de la santé. Il se trouve que il y a eu, malheureusement, et on est là en mai 1890, juste avant d'arriver à Nemours, César Franck a été victime d'un accident de circulation. Il y avait un fiacre qui le transportait chez le pianiste Paul Brault, qui a été pris en enfilade par le timon d'un omnibus, vous voyez, qui a été percuté par ce timon, hein, par cette pièce qui est entre les chevaux. Le musicien a été touché, il s'est évanoui, hein, il a été heurté au côté droit. Et c'est vrai qu'il s'est bien reposé pendant cet été à Nemours, qu'il a pu mener à bien la composition des chorales, mais il aurait fallu peut-être qu'il se ménage davantage. Or voilà que dès la rentrée, il reprend ses cours au conservatoire à l'Institut des Jeunes Aveugles. Malgré sa famille, malgré les avis du médecin, il ne veut rien entendre, il ne veut entendre personne.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
On pense qu'il va mieux vers la fin d'octobre, sauf qu'en novembre, le mal se met à empirer. Le 7, l'idée de composer une fugue le poursuit et lui cause mille tourments. Le 8, samedi 8 novembre, à 5 heures du matin, César Franck va s'éteindre. Il a dit une dernière fois « Mes enfants, mes pauvres enfants ». Voilà ses dernières paroles. Les obsèques seront célébrées deux jours plus tard à Sainte-Clotilde, dans son église toute tendue de noir, avec une foule immense qui vient lui rendre un dernier hommage. Tous ces paroissiens qui, pendant tant d'années, avaient bénéficié de sa musique extraordinaire. Dans sa biographie qui fait office de référence, qui est publiée chez Bleu Nuit Éditeur, Éric Lebrun souligne l'identité d'un musicien qui se forme à la croisée d'un triple parcours, nous dit-il, car Franck, compositeur, était à la fois pianiste, organiste et pédagogue. Ces trois axes permettent de cerner la personnalité de ce compositeur discret dont l'art si particulier s'est élaboré lentement jusqu'à la prise de conscience d'une forme évidente d'expression personnelle. Alors, seule la mort put arrêter une floraison ininterrompue de chefs-d'œuvre.
Thank you.
Le final, un extrait du final de la symphonie en ré mineur de César Franck par l'Orchestre Philharmonique de New York sous la baguette de Kurt Mazur.
Vous écoutez Radio Classique.
Thank you.